Nous entamons une série de trois ou quatre mardis sur la bénédiction. Amen. C'est un mot qui est très connu. C'est un mot, moi j'ai le souvenir, lorsque je faisais mes études et je regardais un petit peu, je me préparais pour ce soir. Mon plus lointain souvenir, j'étais un petit gamin, j'ai grandi dans l'église, comme peut-être certains d'entre vous, et il y a une époque où on se serrait la main, au Canada, peut-être qu'en France on faisait la bise, au Canada on ne fait pas la bise, ne vous inquiétez pas, j'aime la bise, hein, ça fait 13 ans que je suis là. Mais je me souviens, j'allais à l'église avec mes parents et j'étais tout petit, et je me souviens que des adultes se penchaient vers moi, me serraient la main. Et il y avait un frère particulièrement que j'essayais d'éviter parce qu'il avait une grosse poigne, il m'écrasait la main, il me faisait toujours très mal. Et il me disait, garçon, mon petit garçon, que Dieu te bénisse. Mais il ne me bénissait pas, lui, il m'écrasait la main, tu vois. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a une époque où c'était vraiment la salutation, c'était la façon de se saluer. Et peut-être que pour vous aussi, aujourd'hui, ça s'est perdu un petit peu, mais ça se fait encore quand même. Hein. Parfois, on salue quelqu'un, on lui dit que Dieu te bénisse. Moi, j'utilise encore cette expression. Même parfois, dans des mails, on va signer, on va envoyer un mail à un chrétien. Après, si tu envoies ça à ton patron qui n'est pas chrétien, que Dieu te bénisse, je ne sais pas comment il va le recevoir. Mais entre chrétiens, ça se fait, ça se dit, hein, que Dieu te bénisse. Même certains mettent que les lettres. QTDB, hein, que Dieu te bénisse, QDTB. Il y a toutes sortes d'expressions, il y a toutes sortes, on pourrait même dire, de jargon évangélique, hein, littéralement. Mais d'où ça vient, cette expression que Dieu te bénisse? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça a vraiment une signification biblique? J'aimerais vous dire oui. C'est profondément biblique et c'est cher au cœur de Dieu. Maintenant, le plus loin qu'on peut remonter dans l'histoire, on sait que déjà, c'est dans la culture américaine, c'est très, très fort. Vous avez sûrement déjà entendu les Américains dire « God bless you » ou « God bless America hein? ». C'est très, très américain. Et c'est mis à toutes les sources. Parfois, ça veut dire n'importe quoi. Vous avez peut-être déjà vu les Grammy Awards ou les awards qu'on donne aux acteurs d'Hollywood ou des femmes hyper sexy, vraiment extravagantes, qui sont parfois dans du satanisme ou n'importe quoi. Des actrices qui font n'importe quoi de leur vie viennent sur l'estrade chercher un prix qu'elles ont remporté et elles disent « Thank you God, merci Dieu, God bless America ». Et ça veut dire n'importe quoi, c'est mis à toutes les sauces. Il y a un film qui a été fait là-dessus. Il y a même un chant qui a été écrit, composé par Billie Holiday dans les années 50, « God bless the child », qui a été repris par Aretha Franklin, Diana Ross, Annie Lennox en 2014. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment partie de la culture américaine, de la mentalité nord-américaine, de dire « God bless you », que Dieu te bénisse, « God bless America ». Et d'où est-ce que ça vient tout ça? Le plus loin qu'on peut retrouver sur le plan historique, c'est le pape Grégoire Ier en 590, lorsqu'il eut la peste en Europe. On croyait à l'époque, c'était vraiment des superstitions, on croyait que quand on éternuait, notre âme pouvait sortir par notre nez. Vraiment, les gens croyaient ça au Moyen-Âge. Et que c'était une époque très sombre, hein, beaucoup de mysticisme à l'époque et de superstition. Et on croyait que pour protéger l'autre, il fallait lui donner une sorte de formule magique qui avait été décrétée par le pape lui-même, Grégoire Ier, où on devait dire à l'autre que Dieu te bénisse. Et à l'époque, on croyait aussi que la peste pouvait commencer par un éternuement. Donc, dès que quelqu'un éternuait, on lui disait que Dieu te bénisse. Et vous savez, encore aujourd'hui, les Anglais, quand quelqu'un éternue, répondent « bless you », ce qui est un abrégé de « God bless you ». En France, on ne dit pas « bless you » parce qu'il n'y a pas ses antécédents chrétiens, protestants. On sait que la France est plutôt catholique et même laïque. Donc, en France, on ne dit pas, quand quelqu'un éternue, on dit « à tes souhaits », ça ne veut rien dire. J'ai jamais vu quelqu'un souhaiter en éternuant, mais bon, tant pis. C'est un geste de politesse. On l'admet, on le respecte, tout ça. Mais, et voyez-vous, parfois le problème chez nous, les chrétiens, c'est que certains mots sont tellement devenus usuels, tellement qu'on peut en venir à les prendre à la légère, on peut venir à les banaliser. Alors que dans la parole de Dieu, Dieu avait même décrété dans la loi de Moïse que le grand sacrificateur Aaron allait bénir le peuple. Il y avait une formule de bénédiction qui disait ainsi « Que l'Éternel te bénisse ». Et j'aimerais regarder avec vous ce soir parce que le plus important, si on ne connaît pas le vrai sens biblique de ce que l'on dit, on peut rapidement aller dans des déviances. l'ignorance engendre souvent des déviances. Et on voit aujourd'hui dans le monde évangélique toutes sortes de croyances, toutes sortes. Certains ont utilisé cette expression que Dieu te bénisse, c'est devenu un rite. Dans certains milieux très religieux, très protocolaires, très rituels, on va parfois bénir un enfant lors d'un baptême, on va bénir peut-être un mariage, on va croire dans certains milieux religieux que si le chef religieux pose sa main sur un fidèle et le bénit, eh bien, en fait, ce fidèle reçoit vraiment quelque chose en retour. Et voyez-vous, tout ça, c'est de la superstition. Ça nous est déjà arrivé. Sur Paris, on est confronté à toutes sortes de croyances, toutes sortes de gens, des gens qui arrivent du monde entier. Moi, ça m'est arrivé que des gens viennent me voir, qui m'ont dit « Pasteur, pouvez-vous me bénir? » Oui, on va le voir plus tard, pas ce soir, mais on va le voir que même entre chrétiens, on peut vraiment se bénir. Mais pas comme une formule magique. Voyez-vous ce que je veux dire? Mettez votre main sur moi, pasteur, et bénissez-moi. Et puis là, tu es un peu naïf les premières fois, tu ne te rends pas trop compte de ce qui t'est demandé. Et tu, Seigneur, je te prie, bénis ma sœur. Et la personne, quand tu dis amen, elle part en courant. Le pasteur m'a béni, le pasteur m'a béni. Comme si elle allait gagner le gros lot ou qu'elle allait, qu'un lingot d'or l'attendait à la maison, voyez-vous. La vraie bénédiction n'a rien de mystique. Elle n'a rien à voir avec les rites religieux. Elle n'est pas la bénédiction, mes chers amis, n'est pas une formule magique. Elle n'est pas une récitation ou un mantra. Vous savez, quand on regarde les religions, il y a tellement de superstitions. Et souvent, le travail du Saint-Esprit, c'est de nous libérer de nos superstitions évangéliques. Parce que nous en avons, voyez-vous. Mon cœur est extrêmement peiné lorsqu'un chrétien porte à mon attention un pasteur qui enregistre et qui publie sur un site des prières enregistrées et qui invite les membres de sa congrégation à réciter les prières qu'il a publiées. Et les gens croient qu'en récitant par cœur ce qu'on leur dit de réciter, ils vont être bénis, ils vont devenir riches. Il y a vrai, là, vous me regardez comme si je tombe des nues. Je vous dis, ça existe. Il y a des gens qui vont me regarder, non, c'est pas possible. Oui, ça existe. Et ce n'est pas biblique. Et si vous voulez attrister le Saint-Esprit, allez dans ces choses-là. Parce que Dieu n'a rien à voir avec des formules, des rituels. Ce que Dieu cherche, c'est une communion. Voyez-vous? Et l'homme est tellement rassuré lorsqu'on lui donne des méthodes. Voyez-vous? Mais Dieu n'a pas dit « le juste vivra par des méthodes ». Le juste vivra par la foi. Voyez-vous? Et Dieu essaie de d'éplucher l'homme. Parce que dans l'histoire, dès le premier siècle, c'est pas loin ça, après Jésus-Christ. C'est pas loin après les apôtres. Hein. On croit que c'est à peu près une dizaine d'années après la mort de l'apôtre Jean, on croit à peu près. Mais dès le premier siècle, on a des écrits historiques, découvertes archéologiques prouvent que dès le premier siècle après Jésus-Christ, déjà les autorités religieuses, pour protéger les chrétiens d'aller dans n'importe quel sens dans leurs prières, leur écrivaient les prières et disaient « il faut que tu pries ce que l'on t'écrit ». Et les gens perdaient toute la liberté de leur cœur. Et rapidement, on tombe dans des formules. Voyez-vous, des croyances mystiques, et c'était très, très fort. Il faut comprendre aussi qu'au Moyen-Orient, au pourtour méditerranéen, c'était très, très fort. Les gens croyaient. Aujourd'hui, vous dites, non, mais c'est n'importe quoi. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient. Mais à l'époque, les gens croyaient à des formules magiques. Les gens croyaient fermement que s'ils récitaient quelque chose, eh bien, une puissance allait venir pour les aider. Si vous croyez qu'une formule de bénédiction va vous procurer quelque chose, eh bien, c'est du pur mysticisme. La vraie bénédiction n'a rien à voir avec ça. La vraie bénédiction, on va le voir ensemble dans un instant. Maintenant, quelle est la pure définition? Lorsque l'on regarde le contexte biblique, l'histoire, et même le plus ancien terme des langues sémitiques, le mot « béni », signifie littéralement, si on le prend au pur sens. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, ce soir, au tout début. Les langues sémitiques sont de très anciennes langues barbares. Ce n'est pas raffiné comme le français. Les gens parlaient de façon saccadée. C'était assez brut, assez rustre. Et quand on disait bénir, être béni, ça signifiait littéralement s'agenouiller. Alors, les spécialistes de la langue se sont posés beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que bénir signifie s'agenouiller? Tout simplement parce qu'il y a deux sens très importants dans ce mot. Le premier sens, c'est le sens d'humilité, d'un faible qui se positionne face à quelqu'un qui est fort. La bénédiction, tout d'abord, historiquement, on va le voir bientôt dans la Genèse, mais dans les temps très anciens, la bénédiction était quelque chose qui était accordé de la part d'un riche, de la part d'un riche envers un pauvre, un fort envers un faible, un chef envers un maître envers son serviteur, un roi envers ses sujets. La bénédiction n'était pas quelque chose, c'était quelque chose qui venait de quelqu'un qui avait un pouvoir. Et celui qui recevait la bénédiction s'agenouillait, s'humiliait, et celui qui donnait la bénédiction posait la main sur lui et le bénissait. Donc, le mot « bénir » de l'hébreu signifie littéralement ceci, « s'agenouiller ». Maintenant, la deuxième chose qu'il faut comprendre avec la bénédiction, c'est que ça signifie littéralement le fait de dire du bien de quelqu'un. Impressionnant. Le fait de dire du bien de quelqu'un. Où est-ce que tout ça nous amène ce soir? Il faut comprendre le début pour arriver au vrai sens inspiré de Dieu. Maintenant, écoutez bien ceci. Ça signifie en fait louanger un serviteur, être fier d'un subordonné, un père qui est fier de son fils, un maître qui est fier de son serviteur. Cette fierté engendre donc les bonnes grâces et la faveur de son maître. Ce dernier octroie plus que de l'aide, mais il facilite le travail de son serviteur dans le but de lui procurer une grande abondance de bonheur. La bénédiction se comparerait aujourd'hui à un patron qui soutient abondamment son employé dans l'intention de le faire réussir et prospérer à tous les égards. Elle peut aussi se représenter par un père qui transmet son héritage à son fils par imposition des mains. Donc, la bénédiction se comprend comme soit un cadeau, ou soit de l'aide, ou soit les deux. La bénédiction peut être ponctuelle et la bénédiction peut être continuelle. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le premier endroit, je vais vous poser une question ce soir. Quel est le premier endroit dans la Bible où on voit la bénédiction? La création. Dieu, les Grecs voyaient trois formes de vie. La vie bios, on peut dire la vie végétale. Après, ils voyaient la vie psyché, la vie animale. Psyché, psychique, pensée. Une plante ne peut pas penser, un chien peut penser. Donc, la première forme de vie, la plus rudimentaire, c'est la vie bios, c'est la vie des plantes, la vie végétale. La deuxième, cette vie-là, Dieu ne l'a pas bénie. La deuxième vie, qui est la vie animale, la Bible dit, et Dieu, à chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il a dit que cela était bon. Mais quand Dieu a créé le monde animal, la Bible dit qu'il a dit que ça a été bon, et la Bible dit qu'il l'a béni. Et après, il a créé l'homme et la femme, et il a dit qu'ils étaient très bons. Donc, tournez-vous à la personne à côté de vous ce soir, dites-lui, tu es très bon. Aux yeux de Dieu. Et Dieu les a bénis. Donc, la première chose, la première vérité que nous pouvons découvrir ensemble sur la bénédiction de Dieu, c'est que nous pouvons conclure que l'humanité a besoin de la bénédiction de Dieu. Maintenant, Dieu leur dit ceci. Vous remarquerez que la bénédiction est souvent associée à la multiplication. Dieu leur dit, Dieu les bénit, il leur dit, multipliez-vous. Et l'homme, pour prospérer, et là, faites attention, il faut faire très attention parce que le mot prospérer est tellement mal utilisé. Vous avez entendu ici la position de l'Église, elle est vraiment très, très ferme contre l'évangile de prospérité qui prêche, on va le voir un petit peu plus tard, mais qui enseigne aux gens qu'ils peuvent devenir riches matériellement. Ce n'est pas la position que nous croyons. Nous croyons cependant que Dieu veut que ton âme prospère, que ton esprit prospère. Et Dieu, oui, veut te bénir aussi matériellement. Dieu veut pourvoir à nos besoins, Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Mais la vraie prospérité, c'est la prospérité intérieure de mon esprit, de mon âme, spirituellement. C'est là que Dieu veut que je prospère. Et la bénédiction, c'est la faveur de Dieu. C'est l'aide de Dieu. C'est Dieu qui met tout en place pour faciliter ta vie, ton cheminement, ton avancement. Parce que Dieu veut, voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il existe des démesures au niveau de certains enseignements de la prospérité que nous ne pouvons plus enseigner que Dieu désire quand même que l'on prospère. Dieu veut ton bien. Job a traversé des moments très difficiles. Et tous les enfants de Dieu vont traverser des moments difficiles dans leur vie. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va venir. On passe tous par des épreuves. OK? La vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuves et sans moments difficiles. Mais, et regardez David, mais l'Éternel est fidèle et nous délivre de ces moments. Et Dieu nous fait grandir et Dieu fait grandir notre foi et notre confiance en lui. Mais globalement, indépendamment des moments difficiles de nos vies, des épreuves qu'on peut traverser, indépendamment de tout ça, globalement, Dieu veut ton bien. Il veut que tu réussisses à tous les niveaux. Maintenant, je sais que peut-être il y a des gens ici ce soir qui vous disent « oui, mais » dans votre cœur. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Mais pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il ne m'a pas donné? Il y a des mystères qui n'appartiennent qu'à Dieu. Il y a des choses que parfois Dieu ne nous donnera pas dans notre vie. Des choses, pourquoi est-ce que Dieu guérit l'un et ne guérit pas l'autre? J'ai été guéri dans mon corps à 2 ou 3 reprises dans ma vie, des vraies guérisons surnaturelles. Et sur d'autres choses, non. Et parfois, Dieu peut guérir la personne à côté de toi et pas toi. Pourquoi est-ce que Dieu donne un mari à une sœur et pas à une autre? Et pourquoi, voyez-vous? Et parfois, il y a des questions qu'on n'arrive pas à répondre. Il y a des mystères qui appartiennent à Dieu. Je ne veux pas mettre mon pied là-dedans, c'est trop glissant ce soir. Mais comme généralité, Dieu désire ton bien. Il t'aime. Il veut que ta vie aille de l'avant. Amen. Et c'est pour ça que Dieu a regardé l'humanité, il a regardé l'homme et la femme, il les bénit. Il a voulu qu'ils se multiplient. Et il y a une première loi ici, c'est que sans Dieu, il n'y a pas de vraie prospérité. Il n'y a pas de réel avancement. Il n'y a pas de vrai bonheur. Dieu veut que les choses avancent, mais on a besoin de lui. Et c'est un principe de Dieu. Dieu a dû bénir Adam et Ève pour qu'ils se multiplient. Il a dû bénir la création pour qu'elle se multiplie. Et puis on arrive un peu plus loin à un homme. Cet homme est unique. Ce n'est pas que Dieu aime plus lui que d'autres, mais Dieu a choisi un homme et Dieu fait cela. Dieu prend des hommes dans la Bible, il en fait des modèles. J'ose dire des prototypes ou des types. Ce n'est pas qu'ils étaient plus importants que d'autres, mais à travers leur vie, Dieu essaie de nous parler, de nous montrer qui lui il est. Voyez-vous? Et le premier homme, personnellement, parce qu'après il y a Noé, on ne parlera pas de Noé ce soir, mais Noé c'est comme une deuxième création. Et Dieu, après le déluge, Dieu a béni Noé. Il lui a dit « multipliez-vous ». Et puis on arrive, parce que la Genèse est très importante, c'est dans la Genèse où l'on parle le plus de la bénédiction. Vous me direz peut-être si vous étudiez la Bible, oui mais pasteur, les psaumes en parlent beaucoup aussi. Les psaumes parlent beaucoup aussi de la bénédiction, mais ce n'est pas le même mot. Là, le mot que je viens de vous dire, c'est le mot « barak », qui veut dire vraiment ce principe d'imposer, de poser sur un homme ou une femme une bénédiction. « Barak », le mot qui est utilisé beaucoup dans les psaumes, ce n'est pas ce terme-là, c'est un autre terme qui signifie le bonheur, être heureux. Et les psaumes vont parler beaucoup de bonheur parce que Dieu veut que tu sois heureux. Maintenant, c'est particulier parce que le mot qui est utilisé dans les psaumes, c'est un autre mot, mais le mot signifie aussi un riche qui aide un pauvre à être heureux, un fort qui aide un faible, quelqu'un qui est en position d'autorité, de capacité, de richesse, de pouvoir, de puissance, qui vient au secours de quelqu'un qui a besoin d'aide. et il lui donne la bénédiction, il lui donne le bonheur. C'est pour ça que parfois, vous allez voir, on va parler même dans les évangiles des béatitudes, où Jésus dira « béni soit », tu vois, mais certaines traductions diront « heureux ». C'est la même chose. C'est le bonheur. Dieu veut ton bonheur. On revient à Genèse. Le premier homme, nous disons, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour le mériter. C'est Abraham. Abraham est chez lui, en Ur en Chaldée. Donc, il est originaire, vous savez, d'Irak. Et Abraham, il est là. Et Dieu le visite. Et là, il a fait un petit bout de chemin dans sa vie. Hein. Il est déjà un petit peu plus loin dans Genèse 12. Et Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. » Là, ici, c'est la première fois dans la Bible que l'on rencontre le mot « bénédiction ». Avant, on voit le mot « bénir », on voit le verbe, l'action. Dieu a fait l'action de bénir. Mais là, ici, c'est la première fois où Dieu parle de la bénédiction. Et Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai et à ton tour, tu seras une source de bénédiction. » C'est impressionnant. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et là, ici, c'est le seul homme, c'est la seule fois où on, c'est le seul texte, et je suis ouvert, je suis humble, hein, si vous en trouvez un autre, vous venez me le dire, il n'y a pas de problème. Mais d'après mes études, c'est le seul endroit dans toute la Bible où on voit autant le mot « bénédiction » être utilisé en un ou deux versets. Dans une seule rencontre, dans un seul courtement, Dieu va dire à peu près 5 fois à Abraham, « Je te bénirai, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent, et tu seras une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Franchement, quand Abraham est allé donner son rapport à sa femme, c'était assez simple à dire. « Chérie, Dieu va me bénir. » Il l'a dit 5 fois. On va regarder ensemble la bénédiction d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham, vous allez voir, elle vient en Jésus-Christ et elle devient la bénédiction de tous les enfants de Dieu. Amen. Donc, quelques vérités très importantes pour nous ce soir. La bénédiction d'Abraham, elle est le sujet central de l'alliance entre Abraham et Dieu. Notre Dieu, le Dieu des cieux, est un Dieu d'alliance. On l'a déjà vu ensemble il y a quelques mois, je ne referai pas le message, mais Dieu utilise beaucoup le mot « chassed » dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, pour parler de son amour. Et l'amour chassed, c'est l'amour qui s'engage. Voyez-vous? Parce qu'un amour qui ne s'engage pas n'est pas un vrai amour. Un homme qui dit à une femme, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », qui lui offre des fleurs, lui achète une voiture, il lui la sort au restaurant, il fait toutes sortes de choses, « Je t'aime, tu es l'amour de ma vie », mais qui la demande jamais en mariage, « Madame, tu peux passer à autre chose, tu peux chercher ailleurs ». Il a beau t'offrir tout ce que tu veux, s'il ne veut pas s'engager, s'il a peur de s'engager, il manque quelque chose. Parce que le vrai amour s'engage. Là, il y en a qui sont en train de réfléchir à leur vie. Hein, franchement, je vais texter quelqu'un ce soir, moi. Chesed, c'est le vrai amour de Dieu. Dieu dit, mon amour à moi, il est si grave. On l'a vu ensemble. L'amour de Dieu, on peut même dire qu'il est grave, il est sérieux. Je t'aime tellement, je veux m'engager. Alors, Dieu prouve son amour par une alliance. Et le centre, cette alliance, Dieu l'a fait avec Abraham et elle est devenue l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir. Cette alliance, elle tient toujours. Si vous entendez des gens dire que Dieu a abandonné Israël, que c'est fini, ils se trompent. Ils ont bibliquement faux. Ils ont tort. L'alliance entre Dieu et Israël, elle a l'air d'être mise en pause, mais Dieu tient son alliance. Dieu a une alliance avec Israël. Et l'alliance avec Israël a comme centre ce mot, la bénédiction. Je veux te bénir. Je m'engage, je fais une alliance envers toi, avec toi. Et on le voit un petit peu plus tard dans l'histoire d'Abraham. À un moment donné, vous connaissez l'histoire, Dieu visite Abraham et Dieu fait une alliance avec lui. À l'époque, on coupait un animal en deux, on séparait l'animal et les deux hommes qui faisaient alliance marchaient dans le sang de l'animal. Et ça voulait dire quelque chose de très grave, ça veut dire si tu ne tiens pas ta partie de l'alliance, tu finiras comme l'animal. C'est ce que ça voulait dire, c'était des barbares. Et quand Dieu fait alliance avec Abraham, vous remarquerez qu'Abraham tomba endormi. Et Abraham ne passa jamais entre les deux animaux. Dieu seul le fit. Parce qu'Abraham ne pouvait pas tenir sa part. Et Dieu est bon. Alors c'est Dieu qui fait l'alliance au complet avec Abraham. Et Dieu fait une alliance avec toi. Je veux te bénir. Je veux ton bien. Et maintenant, c'est très intéressant. Mais Dieu est l'initiateur de la bénédiction. Avant Abraham, nous ne voyons pas d'homme rechercher la bénédiction. Et tout ce que l'on voit, c'est dans la création, envers les animaux, envers Adam et Ève, Noé, après le déluge, et on arrive chez Abraham, et on voit Dieu qui initie. Il initie. On ne sait pas d'où ça vient, ça sera révélé plus tard, mais là, et on a tous envie de dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il avait, Abraham? Vous êtes déjà posé cette question? Aimeriez-vous que Dieu vous apparaisse ce soir, vous rentrez à la maison, tu rouvres ton appartement, Dieu est là! Et Dieu te dit, Shakti, tu t'assois dans le canapé, je veux te parler. Et Shakti s'assoit, il tremble un peu, Dieu est dans mon appartement. Et Dieu dit à Shakti, je vais te bénir, je vais te bénir, je vais te bénir, je vais te bénir. Tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te bénissent, je vais les bénir. Et ceux qui te maudissent, je vais les maudire. Et puis toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham, pour que Dieu le visite ainsi? On le verra plus tard. Mais Dieu est l'initiateur. Maintenant, pourquoi Dieu initie la bénédiction? Pourquoi Dieu la crée à partir du néant? À partir du vide, à partir du rien, Dieu a fait arriver la bénédiction dans la vie de cet homme-là parce que Dieu veut prouver combien il nous aime et qu'il nous aimait avant qu'on existe. Avant que tu existes, il avait prévu ton bien, il t'aime, il veut te bénir, il veut être le premier à dire du bien sur ta vie. C'est pour ça que Dieu initie la bénédiction. On continue. Quelques vérités. C'est tellement vrai ce que je vous dis que sur 300 mentions de bénédiction dans la Bible, le tiers est attribué à Dieu directement qui dit qu'il va bénir. Le tiers. C'est aussi ici que l'on trouve pour la première fois le mot bénédiction, que Dieu va non seulement bénir, mais Dieu dit que tu seras une source de bénédiction. Et là, s'enclenche quelque chose qui va traverser toute la Bible jusqu'à nous ce soir. Cette recherche de la bénédiction. On va retrouver Jacob et Ésaü qui vont lutter pour la bénédiction. Vous connaissez l'histoire. Jacob va tromper l'aîné Ésaü qui a le droit d'aînesse, donc qui a le droit légal en tant qu'aîné d'hériter de la bénédiction d'Abraham, son grand-père. Impressionnant. Et finalement, Jacob l'a vu tellement. Il va se déguiser et tout. Et Ésaü, même à un moment donné, un peu plus tôt, dira « Qu'ai-je à faire de cette bénédiction? Moi, j'ai juste envie de ta soupe, toi. » Mais Jacob, lui, il a voulu la bénédiction. Et on voit des hommes dans la Bible se mettre en quête d'être bénis de Dieu. Dieu a lancé quelque chose à travers Abraham. Parce que Dieu dit à Abraham qu'à travers sa postérité, à travers sa descendance, va passer la bénédiction. Alors, les hommes commencent vraiment à la chercher, à la désirer, cette bénédiction de Dieu. Maintenant, on va terminer bientôt, je ne vais pas être trop long ce soir, mais on découvre une chose qui est très importante concernant Abraham, c'est que dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, l'élément le plus fondamental, le plus central de la vie d'Abraham, c'était sa confiance en Dieu. Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut compté comme justice. Et le Nouveau Testament va reprendre ce texte, c'est Jacques, et Jacques va dire, et il fut appelé ami de Dieu. Et on découvre qu'en fait, Dieu, en bénissant Abraham avant qu'il ouvre la bouche, Dieu connaissait déjà l'état de son cœur. Il savait à l'avance qu'il avait trouvé un homme qui aurait confiance en lui. Et la vie d'Abraham le prouvera, il fera des erreurs terribles. Vous savez, il va donner sa femme au roi Pharaon parce qu'elle est tellement jolie, il a peur de mourir, il envoie sa femme devant. Il va faire de grosses, grosses boulettes, Abraham. Mais malgré toutes ses erreurs, c'est un homme qui a confiance en Dieu. Maintenant, sa confiance, elle va passer à l'action. Et il y a deux textes de bénédiction sur Abraham qui nous montrent qu'est-ce qu'Abraham avait. Le premier, c'est dans Genèse 14, où le roi Melchisédek, on ne rentrera pas là-dedans ce soir, c'est un petit peu compliqué, mais Abraham part en guerre, il revient, et Melchisédek était une prophétie de Jésus-Christ qui allait venir. Melchisédek vient bénir Abraham et lui dit ceci, « Béni soit Abraham, Abraham, et c'est compliqué dans l'hébreu, parce que ce n'est pas du tout comme en français. Mais en hébreu, on pourrait traduire littéralement, puis écoutez bien, ça va, c'est extraordinaire comme révélation, il lui dit ceci, « Béni soit Abraham de Dieu. Béni soit l'Abraham de Dieu, dans le sens de consécration. » En anglais, on peut dire « Abraham of God », Abraham qui appartient à Dieu. Et Melchisédek regarde cet homme et il fait un constat. Il lui dit, « Tu es béni, Abraham, parce que tu es à Dieu. » Donc, la première vérité qu'on découvre, c'est que la bénédiction, elle est pour ceux qui se consacrent à Dieu, qui se donnent pleinement. Tu ne peux pas la mériter, la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de formule magique. Personne ne peut proclamer quelque chose sur toi qui va changer ta vie. Ne croyez pas à toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin de réciter des formules par cœur qu'on t'a données pour être béni ou bénir les autres. Non, 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 non. Donne-toi pleinement au Seigneur et tu seras béni. Béni soit Abraham de Dieu, de Dieu le plus élevé, le maître du ciel et de la terre. Et plus tard, vers la fin de sa vie, lorsqu'Abraham n'hésitera pas, mais va obéir à offrir Isaac en sacrifice, parce que Dieu l'a testé, on sait que Dieu ne veut pas des sacrifices humains, mais Dieu va dire à Abraham, « Donne-moi ton fils unique, comme un holocauste, comme un sacrifice humain. » Et Abraham vient jusqu'à brandir l'arme pour tuer son fils, poignarder son fils, et Dieu l'arrête au dernier moment. Et Dieu dit ceci, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Maintenant, si vous ne connaissez pas cette histoire, n'ayez pas peur, il n'a pas tué son fils. Dieu l'a arrêté. Dieu ne veut pas ces choses. C'est un test. Regardez ce que Dieu dit, « Je te bénirai. » Je te multiplierai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance pour une raison, parce que tu m'as obéi. Donc la foi, elle va se consacrer pleinement et la foi, elle va obéir. La vraie foi se caractérise par une consécration et une sincère soumission à Dieu, une obéissance à Dieu. Tout ça dormait déjà en Abraham. Voyez-vous, je pense que c'est il y a 2 ans, juste avant de devenir pasteur ici, je suis allé prêcher en Chine et pendant que j'étais là-bas, on a célébré un mariage d'un jeune homme que j'ai connu ici. Je l'ai connu, il était adolescent, on venait d'arriver en France en 2006, je crois. Et un jeune homme tellement simple, qui a grandi dans une famille, voilà, une famille difficile. Et il a fait ses études, il a fait son petit chemin. Et finalement, il a trouvé du travail, il est parti à Shanghai pour travailler là-bas en Chine. On a gardé contact ensemble et puis je suis allé prêcher là-bas. Et il m'a demandé, eh bien, si tu viens, est-ce que tu pourrais, on aimerait organiser, ma fiancée et moi, que lorsque tu vas venir, qu'on célèbre notre mariage. J'ai dit, OK, on s'est organisé avec le pasteur et tout ça. Et je me souviens, le mariage était samedi, le vendredi soir, on marchait, je m'en souviendrai toute ma vie, on marchait sur le trottoir ensemble, on allait vers un restaurant où il y avait comme une sorte de soirée avant le mariage avec la famille, tout ça, les familles, et ils voulaient m'introduire aux familles avec Justine. Et je suis comme ça, je le regarde sur la rue et je m'arrête. Et je dis, David, on se connaît, ça fait 10 ans. Je t'ai vu grandir. J'en ai vu des gens dans ma vie. Vraiment toi, Vraiment, je sais que ta vie n'a pas été facile, mais vraiment, Dieu t'a béni. Je regarde aujourd'hui comment Dieu t'a béni. David, une question pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse ainsi? C'est un jeune homme réfléchi. Donc, on a marché encore un petit bout avant qu'il réponde. Et je le voyais, il réfléchissait. Et juste avant qu'on rentre et que tous les gens nous attendent, il m'arrête comme ça et il me dit, « Tu sais, Christian, je ne suis pas parfait. Je suis un gars simple. Mais je pense que j'ai fait de mon mieux pour obéir à Dieu. » Et il m'a mis un bon mot au cœur. C'est pas plus compliqué. Abraham obéit, Dieu l'a béni. Je regardais David, Dieu l'a béni. Il m'a écrit encore cette semaine. Vraiment, Dieu le bénit, ce jeune, c'est extraordinaire. Mais il obéit à Dieu. Et Dieu le bénit dans toutes sortes de sphères. Et dans toutes sortes de sphères où Dieu le bénit, je vous le dis, vraiment, je le connais, il n'est pas attaché à ces choses. Voyez-vous? Son cœur est à Dieu. C'est un jeune homme consacré à Dieu, détaché des choses matérielles, un jeune homme qui aime Dieu, un jeune homme qui obéit à Dieu. Dieu lui a demandé de faire des choses dans sa vie, pas toujours facile, il l'a fait. Il m'a dit, Christian, il y a eu des moments dans ma vie où on m'a offert de faire du compromis, on m'a offert d'aller vers des choses, j'aurais pu justifier, j'ai dit non, et ça m'a coûté, je suis resté seul dans mon coin. Mais franchement, sur le coup, c'est dur, mais sur le long terme, Dieu bénit. Et la bénédiction de Dieu, c'est cette faveur. C'est Dieu qui met tout le ciel en mouvement pour t'aider. Parce que tu t'es pleinement, simplement donné à lui. Tu lui appartiens pleinement, tu t'es consacré à Dieu. Tu veux juste simplement lui obéir. Pierre va s'approcher, on va terminer en prière maintenant. Tu veux juste obéir à Dieu. Alors Dieu te bénit. C'est ça la bénédiction de Dieu. Amen. N'allez pas dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans ta vie, « Ah, toi, tu es dans la malédiction. » Non, parce qu'il y a des moments difficiles, même pour ceux qui sont bénis. Mais écoutez-moi bien, si tu t'en sors jamais, si c'est toujours la misère, si tu te prends une tuile à chaque sortie sur le trottoir, si tu arrives toujours un problème par-dessus problème, galère après galère, peut-être que le ciel essaie de te parler. Comprenez-vous? Parce que oui, il y a des épreuves, mais globalement, Dieu veut qu'on réussisse. Alors, je termine en disant ceci. Dieu veut te bénir, mais Dieu ne fera pas compromis. Il a ses standards de droiture, et si ton cœur fait compromis, Dieu enlève sa bénédiction. Et si tu ne fais pas compromis, tu dis, moi, c'est Dieu à la vie et à la mort. Abraham avait un couteau sur son fils tellement qu'il était prêt à obéir à Dieu. Alors Dieu dit, je le jure par moi-même, je te bénirai. Amen. On pourrait aller beaucoup plus loin ce soir, on va s'arrêter ici, parce qu'on va aller aussi vers le Nouveau Testament, mais on ne le fera pas ce soir. Parce que sans le Nouveau Testament, on ne peut pas vraiment pleinement comprendre la bénédiction de Dieu. Mais on viendra mardi prochain. On peut se lever ensemble en terminant. Je ne veux pas finir tard, je veux qu'on puisse vraiment bien rentrer à la maison. Hallelujah. Nous sommes dans la maison de Dieu ce soir. On veut se placer devant Dieu. Et j'aimerais t'inviter, avant qu'on se quitte, avant qu'on se laisse, à te placer devant Dieu ce soir. Et demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur. Peut-être même en rentrant à la maison ce soir. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, tu as placé cette bénédiction sur Abraham et sur sa descendance. Et comme nous verrons ensemble le mardi prochain, cette descendance, elle est en Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à être bénis de Dieu. Et Seigneur, je veux cette faveur du ciel. Je veux vivre avec toi comme un serviteur et aidé par son maître. Comme un bon maître qui met tout en mouvement pour faire prospérer son serviteur. Comme un bon patron qui donne plus de ressources que son employé a besoin pour tellement l'aider. Comme un père qui aime tellement son fils, son enfant, sa fille, qui lui donne tellement de moyens, il l'aide, il a plané son sentier. Comme David a dit, fais-moi marcher sur un chemin nivelé. Seigneur, tu veux nous bénir, Seigneur. Et tu nous attires à chercher ta bénédiction. Et Seigneur, nous réalisons ce soir que tu demandes cette pleine consécration, cette simple mais claire consécration, et cette obéissance à ton esprit, Seigneur. Alors, avant de se quitter ce soir, prends un instant pour dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment te donner ma vie, ou te redonner encore ma vie. Redonner toutes les rênes, Seigneur, les guides de ma vie, Seigneur, toute ma vie, Seigneur. Prends un instant pour lui dire, Seigneur, je veux t'obéir, Seigneur. Je veux être comme Abraham, Seigneur. Je veux être une femme qui obéit à Dieu. Je veux être un homme qui se soumet à Dieu, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas besoin de réciter des formules pour être bénis, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de croire à des rites ou des rituels humains, Seigneur. Seigneur, la bénédiction, c'est la faveur de Dieu, hallelujah, sur ses enfants, Seigneur. Et personne ne peut nous la donner, elle vient de toi, Seigneur. Oui, on est appelé, on le verra ensemble, on est appelé à se bénir les uns les autres. Mais d'abord, la bénédiction vient de toi, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, on se place de toi, on se place devant toi ce soir, Seigneur, avant de te laisser, avant de rentrer à la maison. Hallelujah. Seigneur, nous voulons la bénédiction de Dieu sur nos vies, Seigneur. Et s'il y a quelque compromis que ce soit dans ta vie, c'est tellement simple. Demande pardon, Seigneur. Quelque insoumission, quoi que ce soit où tu sais dans ton cœur, tu sais que cette chose n'est pas en règle avec Dieu, ne perds pas la bénédiction de Dieu. Ne joue pas, ne risque pas la faveur de Dieu sur ta vie pour un simple plaisir ou pour une simple opinion. Ne risque pas la faveur de Dieu pour juste gagner ton avis ce soir. Hallelujah. Sois prêt à tout comme Abraham. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix.
Par amour, tu as fait ça.
Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui, à toi Jésus-Christ.
Hallelujah. Seigneur, tu n'as pas aimé plus Abraham que nous, Seigneur. Mais tu as fait de lui un modèle, un exemple d'un homme qui a marché avec Dieu, malgré ses imperfections, Seigneur, et qu'il a appris avec le temps de faire confiance, Seigneur. Et Abraham crut en l'Éternel. Il fut appelé ami de Dieu. Et tu fis une alliance avec lui, Seigneur, et tu as fait une alliance avec nous à la croix en Jésus-Christ, Seigneur. Jésus, déchiré à la croix, il est notre alliance avec toi, Seigneur. Et comme Abraham n'a jamais traversé l'alliance, comme Abraham n'a pas marché dans le sang, il n'a rien fait, Seigneur, tu as fait une alliance avec nous que nous ne méritons pas, Seigneur. Alors tu nous demandes exactement ce que tu as demandé à Abraham, la foi, Seigneur, la confiance, Seigneur. Et mon ami, ce soir, entends le Seigneur parler à ton cœur. Entends la voix de Dieu te dire, tout ce que je te demande, c'est « Fais-moi confiance, comme Abraham. Donne-toi complètement à moi. Consacre-moi complètement ta vie. Vis pour moi. Tout ce que je te demande, c'est « Soumets-toi, obéis-moi. Je te bénirai comme j'ai béni Abraham. » Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse.